Rairad donne carte blanche à la web radio du Libre Ondes Courtes.
Ping-pong zwischen Frankreich und Österreich.
Tiens, ça c'est Francis ouais. Bébé, justement, c'est ce que je comptais mettre. C'est African Electronic Music. Enfin, c'est des trucs qui nous influencent plus ou moins, quoi.
Francis Bébé, c'est
plus. Oh, tu sais, hein, c'est pas pour rien qu'on fait toujours un morceau africain, oui, hein, plus
vrai.
Ou moins.
C'est vrai.
Et toujours un truc comme ça, quoi.
Ouais. C'était un premier disque. Super pochette.
Une réédition de Band Bad, c'est ça ?
Oui, le label Band Bad qui ouais. a sorti Cheveux, Frustration, tout ça. La réalité, Francis Bébé, c'est un petit peu le Georges Brassens camerounais, je crois. Parce que je crois qu'il est du Cameroun, il me semble. À un moment donné, visiblement, il a chopé plein de synthés dans des décharges, j'imagine.
Non, je plaisante.
Il a chopé plein de synthés, il s'est amusé avec. Et il a fait plein de morceaux voilà, avec des synthés hyper cheapos, des boîtes à rythme, des trucs comme ça. En posant son chant dessus, où il parle notamment de la condition masculine. Alors c'est marrant parce que quand on écoute le Scud, les paroles ça fait hyper misogyne quoi. Parce qu'il dit vraiment « Ah, t'es ma femme, toi tu vas me servir, tout ça quoi. » Sauf que c'est l'ironie quoi. C'est la grosse ironie. Bah tiens, je vais remettre. Je vais mettre la condition masculine d'ailleurs, tiens. Après c'est drôle, hein, c'est vraiment...
C'est drôle, mais musicalement c'est pas mal.
Musicalement derrière, ouais, il y a des trucs vraiment intéressants quoi. Face A, je crois que c'est celui-là.
Là c'est marimba et synthé quoi.
Tu ne connais pas Susanna. Susanna, c'est ma femme. C'est ma femme puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant. Elle était très gentille auparavant. Je lui disais, Susanna, donne-moi de l'eau. Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire, hein? Très bonne. Je lui disais, Susanna fait ceci, et elle faisait. Fait cela, et elle obéissait. Et moi, j'étais content. Je regardais tout ça avec bonheur. Ah, je te dis que Susanna était une très bonne épouse auparavant. Hein. Seulement depuis quelques jours, les gens là, ils ont apporté ici la condition féminine. Il paraît que là-bas chez eux, ils ont installé une femme dans un bureau pour qu'elle donne des ordres aux hommes. Aïe, tu m'entends des choses pareilles? Et depuis, toutes les femmes de notre pays parlent de la condition féminine. Maintenant, je dis à Susanna, donne-moi de l'eau. Elle répond seulement que la condition féminine, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Je lui dis, Susanna, donne-moi à manger, j'ai faim. Elle ne m'écoute même pas, hein. Elle me parle seulement de la condition féminine. Bref, il faut te dire que ma condition masculine est devenue très malheureuse ici. Alors j'ai dit à Susanna, écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari. Elle lui fait à manger. Elle lui fait des enfants. Voilà tout. Tu sais que Susanna s'est fâchée. Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi je l'ai battue, hein. Elle a crié pour appeler tout le village. Moi, je lui dis seulement, ne crie pas, ne crie pas. Hey, tu me parles toujours de la condition féminine. Alors moi aussi, je vais te montrer la condition masculine aujourd'hui. La condition féminine, tous les jours, tu me dis la condition féminine. Moi, je te donne seulement la condition masculine. Hey, dis donc, la condition féminine, est-ce que c'est même plus grand que la condition masculine?
Donc voilà, moi ça, Francis Bébé, j'ai bloqué pendant 3 mois là-dessus. vraiment quoi, à l'écouter tout le temps en permanence. Ça me foutait dans une ambiance, je sais pas, et puis ses sons, tout ça, enfin je sais pas. C'est tellement pittoresque. Non mais vraiment, et puis c'est vraiment génial quoi. Il y a vraiment des trouvailles. Voilà, c'est chouette quoi. Après un autre Scud, un autre truc que j'aime beaucoup, c'est un vieux groupe anglais de la fin des années 70. Ou oh, plutôt milieu, 75 par là. Il s'appelle This It. T-H-I-S et plus loin H-E-A-T, This It. Voilà, c'est pareil, c'est plutôt c'est des gars qui étaient plutôt des beaux-ardeux, genre, qui étaient dans des écoles de graphisme et compagnie à l'époque, donc ils aimaient bien les concepts et tout ça, et puis surtout la recherche sonore. Après eux, ça se sent vraiment dans leur déjà dans leur pochette, truc hyper.
Non, même
tu sens vraiment l'expérimentation en permanence. Et là, c'est l'album. Alors, je sais pas trop le prononcer, c'est Deceit.
Non, mais en fait, chaque album qu'ils ont fait, c'était une espèce de variation autour de Deceit. En fait, à chaque fois, ça se prononçait Deceit. Donc là, celui-là, c'est Deceit.
Et quel jeu, morceau je peux mettre hein. Qui s'appelle Triomphe, comme les motos. Enfin bon, c'est plus récent du coup, c'est ADDN2X, voilà, qui est pareil, un de ces groupes qui a remis au goût du jour les synthés analogiques. C'était dans les années 90, hein, je crois que cet album il date de fin 90 plutôt. Donc ça c'est l'album Avant Hard, qui est pour moi vraiment un de leurs meilleurs, de loin. Et donc, surtout, enfin en fait, C'est des gens qui utilisaient des synthés analogiques, mais de façon ultra punk et rock, quoi. Ils avaient un batteur et deux personnes au synthé analo, et ils jouaient ça vraiment avec des gros riffs de rock. Voilà, ce qui était assez original à l'époque, peut-être moins maintenant, mais... Ah, je suis content, moi je l'avais trouvé d'occasion à Total Yvonne, je le cherchais depuis un moment. Puis en plus, je l'ai trouvé en double LP, là. La pochette est bien belle, quoi. Ah, ça c'est vraiment un des groupes que je regrette vraiment de n'avoir jamais vu en concert. Ils sont passés à Bordeaux, hein, il y a hyper longtemps, mais bon, voilà. Je sais pas où j'étais à ce moment-là. Mais... Il y a des anecdotes, notamment de ces gars qui visiblement avaient l'air un peu déchirés en jouant et qui vomissaient sur, littéralement sur leur synthé en jouant, quoi.
C'est un drôle de traditionnel.
Voilà, ce morceau qui est assez rock.
ça, je pense, Shogun Kunitoki, qui est c'est un groupe finlandais. L'histoire est assez marrante, c'est des mecs qui justement faisaient de la musique 8 bits. Je sais plus sur quoi ils travaillaient, en tout cas ils travaillaient sur des ordi physiques, pas sur des Game Boy. Et il y a eu une coupure d'électricité dans le local, je crois qu'ils sont à Helsinki, pendant qu'ils faisaient une répétition. Et la coupure d'électricité a fait cramer tout leur matos. Et les mecs se sont retrouvés avec plus rien pour travailler. Et donc ils se sont dit, on va faire... Enfin, ils voulaient continuer à produire la même musique, mais ils se sont dit, il va falloir trouver d'autres instruments pour la produire. Et du coup, ils se sont retrouvés dans les Emmaüs finlandais et compagnie. Ils ont acheté des orgues, des vieilles orgues Hammond pourries. Ils leur ont foutu des réverbes à ressort au cul. Et ils ont fait une espèce de musique 8 bits, mais jouée en live qu'avec des vieux instruments voilà, des années 70. Et c'est assez... ouais, c'est hyper bien. C'est entre Steve Reich, je sais pas quoi, enfin c'est musique répétitive et en même temps ouais, avec un côté enfantin qu'on retrouve dans le 8 bits qui est vachement, vachement bien quoi. Groupe que personne connaît mais qu'a priori tout le monde adore une fois qu'il l'a entendu, c'est un truc assez, assez fou quoi. Shogun Kunitoki. Spéciale dédicace à ma copine qui est à moitié finlandaise et qui m'a ramené ce disque de Helsinki.
Sans blague. Ah ouais.
D'accord. Ah bah oui. Ah bah attends, tu crois d'où je connais Shogun? Tu connais quelqu'un qui connaît Shogun Kunitoki?
Bah oui, Fredo.
À part les Finlandais, bah c'est moi qui ai fait découvrir Fredo. Enfin.
Ah ouais, je savais pas.
Mais bien sûr que
c'est lui qui était l'origine.
Mais non, pas du tout.
D'accord.
Elle m'a dragué avec Shogun Kunitoki. Ah, c'est bon. Thank you.
séquencé. Quoi. C'est vraiment tout à la... tout au doigt, quoi.
Tout à la main, quoi.
Tout au doigt. Ouais. Deux doigts.
Ouais.
Il gère bien les deux doigts.
Quoi. Comme moi. Ouais. Deux doigts. Pas plus.
Moi, je suis gratteux à la base et j'avais jamais touché un clavier, pratiquement. Et là, justement, dans mon VVVV, je me mets à jouer de l'orgue, quoi, d'une espèce de clavier. Je te le montrerai tout à l'heure, tu vois. Il est très beau. Et ouais, c'est pénible parce que je suis obligé de mettre des gommettes pour me repérer sur le clavier, parce que par rapport à une guitare, on n'a pas du tout les mêmes repères.
Il ne voit pas les octaves.
Non,
Il ne sait pas où commence le do.
Il ne sait pas où commence l'octave. Là, j'ai carrément mis des gommettes de couleur. Hein. Ouais. Une gommette différente pour chaque morceau, pour savoir sur quelle note commence le morceau. En même temps, c'est rigolo de partir de zéro sur un instrument, d'être complètement gogol. Voilà, ça permet de, je sais pas, de...
Après, la scène finlandaise, pour m'y être un tout petit peu intéressé, a l'air quand même assez... ils sont pas nombreux, mais quand ils décident de faire quelque chose, ils le font bien, quoi. Et c'est toujours assez original, enfin, comme pas mal de groupes des pays, on va dire, un peu isolés. Le black metal n'aurait pas pu exister ailleurs qu'en Norvège. Je vais vous demander de passer un morceau de Bourzon. si votre éthique le permet. Il est en concert au tribunal. Cette semaine. Ah oui, j'ai vu que... Ah oui. Ah oui, pour incitation à la haine raciale.
Bah alors justement, intéressant, explique-nous comment tu arrives à faire le ménage entre sa musique et ses idéaux, quoi.
Parce que ses idéaux ne sont pas compris dans sa musique, enfin je sais pas comment dire. Et puis pour une fois qu'un mec d'extrême droite fait quelque chose de valable au niveau artistique, on va quand même pas lui reprocher, quoi.
Non, est-ce que c'est une raison aussi pour...
Non, pas du tout, mais par contre, est-ce que si quelque chose te touche, parce que le mec qui le fait est une ordure, il faut pas t'empêcher d'y prendre...
Oui, parce qu'à ce moment-là... Le Ferdinand Céline.
Non, mais oui, hein, mais ça, c'est le débat éternel. Enfin, voilà, justement, c'est l'exemple qui confirme la règle. Après, c'est quand même, je sais pas, il arrive à dégager avec très très peu de choses parce que finalement, sa musique est très très minimaliste. Il a fait tout seul, c'est jamais plus de 2-3 accords et il arrive à en faire quelque chose d'assez universel, quoi.
Moi, j'ai jamais trop écouté, mais quand j'étais tout jeune, dans mon bled, à Martignat-sur-Jal, qui est un peu dans la campagne, là, dans la lande, Girondine, il y avait un black métalleux dans le village, évidemment. Bon, je l'ai rencontré et il m'avait amené dans sa chambre où il y avait un hôtel et tout, avec voilà, Satan, machin, tout ça. Et il m'a fait écouter Burzum. Je savais même pas que c'était Burzum à l'époque et j'étais complètement retourné par ce que j'ai entendu, parce que c'était la première fois que j'entendais un truc pareil. Ouais. J'avais pas du tout conscience de l'idéologie, évidemment, qu'il y avait derrière, parce que même lui d'ailleurs, je me demande si j'en avais conscience. Mais en tout cas, ce que j'ai entendu, mais c'était. Bon, j'avais vraiment l'impression que c'était un gars qui était dans une espèce de cahute au fin fond donc de la Suède, non, de la Norvège, et qui hurlait les fenêtres ouvertes avec la neige qui tombait dehors. Ça faisait vraiment, ça m'évoquait ça, quoi. Ouais. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas possible. Et en tout cas, ça, oui, c'est sûr, ça m'a bien marqué, quoi. Bon, après, j'ai pas forcément écouté beaucoup par la suite, mais
j'ai ce souvenir. C'est marrant, le seul autre black metalleux que j'avais rencontré au Pion Médoc, quand j'habitais au Pion Médoc. Nous étions deux black metal. Et qui écoutait Burzum aussi, il était venu me voir un jour pour qu'on sacrifie sa sœur. Il voulait qu'on fasse il voulait qu'on sacrifie sa sœur à Satan. Là, non, j'étais pas sûr quand même.
C'est déjà moins étonnant dans le Médoc.
Oui, c'est vrai. Mais je pense que lui aussi avait des problèmes psychologiques. Ouais.
Après, on est ultra pop aussi. On adore les trucs hyper pop, quoi. Vraiment.
Mais je peux bloquer des journées entières sur Philip Glass ou sur Steel Reich,
je crois. Moi, je peux bloquer sur, je sais pas, mon Michael Jackson.
Mais moi aussi.
Quelle journée, quoi. Ou, je sais pas, ou les Beatles, écouter Obladi Oblada, quoi.
Non, quand même pas Obladi Oblada.
Bah, si, pourquoi pas. C'est vrai. Tout à fait, mais j'ai aucun problème avec Obladi Oblada.
C'est vrai.
Non, personnellement.
Ah, c'est dur.
Mais, moi, j'ai joué dans pas mal de groupes pop dans les années 90. Voilà, des trucs un peu façon Jonathan Richman ou Velvet, ces trucs, quoi. Mm. Donc j'ai aussi...
Mais le Velvet, c'est extrême.
Oui, c'est extrême. Certains trucs sont extrêmes, oui, voilà. Tout à fait, oui. C'est très bien, ils aiment en live, notamment, c'était très très noise. Après, ils ont des albums très très pop aussi, quoi.
Ouais. Mais c'était des disciples de Lamonté Young, John Cale, il faisait du drone.
Ouais,
c'est vrai. Années 60, quoi. Donc la pop, oui, mais un peu barré, quoi.
Ouais, j'aime pas cette expression, mais on écoute de tout. Ça fait toujours un peu con quand on dit ça, mais on écoute un peu de tout. Mais après, c'est des périodes, c'est des phases. Pourquoi faire un choix entre Francis Denis et Bourzoum si on peut prendre les deux, quoi.
C'est ça, c'est vaste. On fait de la world music, hein, quelqu'un, mais bien sûr.
C'est jamais. Hein.
Mais il adore, Bourzoum adore Bob Marley. Tu vois, rien n'est incompatible.
Ouais. Voilà. La Superette. 23h, minuit. 88.1.
Et on fait que des groupes entre nous, pratiquement.
Ouais, c'est ça.
Entre Aeroflot, où on joue tous les deux dans Aeroflot, et aussi l'autre gars qui joue d'ailleurs dans Duel
ouais,
Star. Duel Star, c'est nous deux, et l'autre, enfin bon voilà, VVV, c'est nous deux. Enfin, voilà. C'est ça. Faut croire qu'on s'entend avec personne d'autre pour pouvoir faire de la musique. Non, c'est pareil, toi, tu joues dans un autre groupe. Ouais. À un moment donné, c'est tellement plus facile aussi de faire de la musique avec des gens qu'on connaît bien, et puis c'est l'intérêt aussi. Je dis pas que j'ai pas envie de me faire chier à essayer de faire des trucs avec d'autres personnes, mais c'est juste qu'on a moins le temps, moins peut-être la patience, et puis bon, ben voilà, les choses se présentent comme ça.
Tu l'as fait.
Oh, puis on l'a déjà fait, ouais, c'est vrai. De toute manière, quand on voit les scènes sur Bordeaux, ça a souvent tourné comme ça. Hein. La scène garage, c'est toujours les mêmes, la scène pop, ça a toujours été plus ou moins les mêmes personnes. Bon, voilà, on retrouve toujours le côté consanguin. C'est comme ça, quoi. Mais nous, c'est plus que consanguin, c'est carrément intra-consanguin, quoi. C'est pas la même scène, c'est juste les mêmes groupes, en
c'est
fait, ça, quoi.
C'est en train de décliner un peu, là. C'est...
Ouais, mais c'est ce qu'on dit depuis 15
oui,
ans.
Oui, mais là, quand même, c'est... Non, mais parce que le bootleg ferme.
Enfin, il réouvre, voilà, dans à peine quelques jours.
L'iBoot.
Non, il ferme pas du tout. Je suis bien placé pour te le dire.
D'accord. Donc, non,
en fait, tout déjà... finit par réouvrir.
Ah hein, oui, c'est ça qui est beau.
On ferme pour...
voilà. On va voir la centrale qui va réouvrir. Ah
ouais.
Ça va être super.
Le Jimmy, voilà, bientôt.
Le cabine.
Non, je sais pas. Moi, ce que j'en pense... pourquoi je dis que je suis bien placé? Parce que je bosse pour un média bordelais qui fait agenda concert et compagnie. Bordeaux concert. Donc, bah, je suis un peu au courant de toutes ces conneries. Ouais, j'ai l'impression que c'est la même chanson depuis des années. Genre, ouais, Bordeaux... ça sera molli, tout ferme, nanana... C'est peut-être pas faux dans un sens, mais le truc, c'est qu'il y a tout le temps des trucs nouveaux qui ouvrent en permanence aussi, des
oui,
choses qui
là,
se régénèrent, quoi.
Si le bootleg et l'iBoot avaient fermé, on se retrouvait quand même un minimum dans la merde, hein. Parce qu'il restait plus que l'hérétique. Hein.
Ouais, après, il y a d'autres trucs encore. Non, il n'y a pas que l'hérétique, je suis pas d'accord. Il y a aussi le Wunderbar où ils font des concerts, il y a aussi le Café Pompier où ils font des concerts, il y a aussi le Chicho où ils font des concerts, qui n'existaient pas auparavant.
Ouais,
et encore, il y en a plein d'autres. Il y a plein de petits lieux. Franchement, il y a beaucoup de villes qui aimeraient avoir autant de lieux que nous hein, pour faire des concerts, honnêtement.
Ouais, c'est vrai.
Mais le truc, c'est qu'on est toujours à se plaindre, à faire. Alors, bon, c'est vrai que la mairie mène une politique assez difficile, assez. Voilà, par rapport au bruit, tout ça. Mais je crois qu'on n'a pas trop à se plaindre, on a plein d'endroits, et puis une scène hyper active, où, bah voilà, j'espère que ça continuera à se régénérer au fur et à mesure. Mmh. Avec VVVV, on a fait un peu la tournée de tous les spots, ouais, on a joué au Bootleg, on a joué à l'iBot, on a joué à l'Hérétique, on a joué à Chicho, on a joué à Wunderbar, là on va jouer à Pola, à Bègle. Quels sont les endroits qu'on a préférés? On a bien aimé le Bootleg, parce que bon, c'était sympathique.
Ouais.
Le lieu est bien.
L'Hérétique,
c'est très sympa aussi.
L'iBot,
c'était super. L'iBot, franchement, quoi qu'on en dise, il y a un super accueil. Ouais, on est hyper bien reçu, on est payé, bordel. Incroyable. Pour un groupe local, quand on est payé, bien payé, on nous paye le resto, on a à boire. Mais en tant que groupe, en tout cas, après, je sais pas, en tant que public, bon, ça dépend des fois, c'est vrai que c'est assez cher des fois.
Mais en tant que groupe, t'es plutôt bien, bien reçu. On n'a jamais eu à s'en plaindre. Il y a un gars qui fait la prog, Benoît, qui est top, qui a des super goûts musicaux, qui prend vraiment des risques des fois au niveau programmation. Moi, l'an dernier, c'est vraiment l'iBot où je suis allé voir le plus de concerts. J'ai vu donc Master Musician of Bukake, j'ai vu Dan Deacon, c'était vraiment génial. Bon, bref. Wunderbar, il y a aussi des choses très chouettes qui sont programmées.
Et les scènes sont très délimitées après à Bordeaux, elles l'ont toujours été plus ou moins.
Mais oui et non, parce qu'en même temps, tout, elles sont devenues vachement perméables. Quoi.
Ouais, il y a quand même la scène garage,
Oui, mais les gens perméables. Non, mais les gens de la scène. T'as des gens de la scène métal dans la scène garage, des gens de la scène garage dans la scène électro, enfin, tout se recoupe. C'est pas comme il y a 15 ans, je me rappelle, il y a 15 ans, enfin, c'était l'enfer. Quand tu faisais partie d'un groupe de métal, tu pouvais pas copiner avec un groupe de pop.
Ah ouais.
C'était hyper mal vu. Enfin, là, aujourd'hui, tout le monde, c'est la grande partouze, quoi. Tout le monde fait des groupes avec tout le monde. C'est quand même vachement plus
ouvert ça, pourquoi parce qu'avant, quoi. Je discutais avec un gonce qui était du mec là, du Québec, là, qui trouvait justement cette notion de scène vachement plus délimitée ici.
Ah ouais.
Que de par chez eux où c'est vraiment le la grosse tambouille.
Oui mais c'est ouais.
Voilà. Enfin je dis à l'américaine parce que ils sont peut-être. Enfin lui il s'en réclamait d'ailleurs. Il disait vraiment dans cette idée comme ça où voilà tout le monde copule avec tout le monde. Toutes les scènes elles sont hyper perméables à mort. Et il trouvait qu'ici c'était plus limité quand même malgré tout.
Je pense que ça c'est quand même pas mal ouvert quoi.
Ouais. Bah j'espère que ça va continuer en ce sens quoi en tout cas.
Bah, c'est bien parti. Après, nous on dit ça, mais en même temps, c'est vrai qu'on on fait des groupes depuis qu'on est arrivé sur Bordeaux. Quoi. Enfin, on a eu le temps de connaître beaucoup de gens, beaucoup de musiciens et tout ça. Pour quelqu'un de l'extérieur, peut-être que c'est effectivement plus fermé a priori. Quoi. Ouais, peut-être que la notion de clan existe, mais au niveau de toutes les scènes réunies. Quoi. L'exemple inverse aussi, nous on a travaillé justement avec Year of No Light, on a travaillé avec. Un artiste contemporain, là, Christian Vialard, qui fait des espèces de sculptures sonores. On a travaillé avec on travaille le drone, donc on travaille pas mal avec des gens de la musique électroacoustique. Récemment, il y a Julia, qui est une copine à nous, qui fait de la musique électroacoustique, pareil, qui a travaillé avec Mars Red Sky, un groupe de métal. Enfin, le truc est en train de se décloisonner, mais aussi parce que c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps. Voilà, c'est des amis, ouais. Mais ça participe au décloisonnement général, quoi. J'ai l'impression.
Mais après, c'est un tel confort aussi de rester dans son monde, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain effort à fournir à essayer justement de s'ouvrir à d'autres choses, quoi. Des fois, enfin, même nous, je nous surprends souvent à être allez, dans notre petit confort de groupuscule machin et compagnie. Après, je crois qu'en vieillissant, enfin moi, c'est ce que ça fait sur moi, j'ai tendance à m'ouvrir de plus en plus. Ça, ouais, parce que quand on est jeune, on a besoin d'avoir une appartenance à un clan, qu'on est dans la scène hardcore ou la scène garage ou la scène machin. Mais c'est vrai que plus on vieillit, plus on prend de l'âge, plus on a envie justement de s'ouvrir sur tous ces trucs-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. J'ai plus envie de naviguer.
Voilà. Ah, liaison dangereuse, formidable. Liaison dangereuse. Comment présenter liaison dangereuse?
C'est l'histoire d'un garçon.
Tu veux écouter C'est l'histoire d'un garçon?
Je sais pas.
Moi j'aurais bien écouté Mystère dans le brouillard.
Ou alors Las Niñas del Parque.
Non, celui-là il est trop connu. Celui-là, Moi j'aurais bien écouté Mystère dans le brouillard. Le premier. Voilà. Alors Liaison dangereuse, qui est une espèce de groupe dissident de DAF, en fait. C'est un mec de DAF, enfin de la toute première période de DAF, qui a monté ça avec une copine à lui. Et c'est. Putain, comment on décrit Liaison dangereuse? C'est de l'électroclash d'il y a 30 ans, quoi.
Après, je pense que quelqu'un qui connaît pas du tout Liaison dangereuse, s'il écoute pour la première fois, il va trouver que c'est Les Inconnus.
Il y a un côté.
Non, mais c'est un peu ça.
Il y a un côté très kitsch. Qui peut prêter à rire, mais je crois qu'au final c'est quand même assez glaçant comme
ouais.
Il y a quand même un côté glauque qui.
Qu'un morceau comme ça peut prêter à rire.
Voilà,
après, quand tu écoutes plusieurs morceaux de filles, tu finis même pas comprendre.
Le disque est terrassant, on en finit, enfin voilà, on n'en ressort pas indemne d'un truc comme ça, mais c'est. Ouais, ça reste un super bon album d'électro, encore assez actuel aujourd'hui, je trouve. Enfin, surtout qu'il y a de plus en plus de groupes qui essayent de faire de l'électro old school et. je pense qu'ils peuvent prendre pas mal de leçons chez Liaison Dangereuse. La toute première piste, Mystère dans le brouillard.
Avec Aeroflot ici, en version vraiment électro, mais on est passé dans une autre cave, là, un peu plus loin, dans une rue juste à côté, dans la cave d'un des gars d'Aeroflot. Donc du coup ici, maintenant, oui, moi je fais mes trucs tout seul, et puis on fait ici, on répète tout ça. Et donc voilà, ben alors, présentation du matériel.
Ben vas-y, commence.
Je commence, alors ben voilà. Ben, un orgue. C'est un Korg Delta, c'est un synthétiseur mais qui fait à la fois orgue et aussi strings. C'est ultra simple hein, comme truc, hein, mais ça permet de faire vraiment des jolis orgues quoi. Voilà, un petit joystick rigolo pour faire des. Des modulations.
Des strings,
je crois qu'il date du fin des années 70, début 80, fin 70 celui-là. 70, ouais. Voilà. Il n'est pas très coté, c'est pour ça qu'ils ne sont pas très chers ceux-là. Moi je l'ai payé 350 boules. Il y a un gars à Lyon en fait qui dont le métier c'est de tout simplement de racheter des bécanes mortes et de les retaper complètement. Et avec une garantie et tout. Et c'est hyper top. Et donc je lui ai racheté ça. Et j'étais très content. Je crois que c'est mon premier synthé d'ailleurs. Pour VVV, je veux dire, parce que j'en ai eu d'autres avant, mais voilà. Après, il n'y a pas longtemps, j'ai investi dans un MFB, c'est un truc allemand. Voilà, c'est un gars qui fait un petit peu des synthés dans son garage, quoi. Il a une petite production, il fait aussi bien des boîtes à rythme que des synthés comme ça. Et donc là, c'est le MFB Synth 2, donc c'est un synthétiseur avec trois oscillateurs.
Une sorte de mini-monde du pauvre.
Je l'ai depuis très peu de temps, en fait, donc je commence un peu à l'explorer. Voilà. Avant, j'utilisais un Volca Keys, qui est très bien aussi, hein, vraiment, qui fait des chouettes sons. J'avais aussi un Arturia Mini Brut, quoi, qui c'est les Neo Analo, quoi. Voilà, mais on l'utilise pas pour VVV, hein. On l'utilise juste donc ce Korg Delta, le MFB. Je passe ma voix aussi dans un délai, quoi.
Oh.
Voilà, un vieux délai des années 80. Formidable. Hyper cheapos que j'ai payé 50€, mais qui fonctionne très bien, voilà, il fait bien le job. Et je passe tout ça dans des pédales. Alors j'ai une pédale assez rigolote qui s'appelle la Jager Counter, qui est une espèce de pédale de distorsion, mais avec dans lequel il y a intégré en fait un petit ordinateur 8 bits qui permet de faire des sons de ce genre. Le tout dans une reverb Holy Grail. Ah, la Holy Grail,
c'est la signature. C'est notre signature.
On l'utilise un peu partout. On en a deux. Aussi bien Mathieu que moi, on les utilise. Voilà. C'est une
simulation.
Une reverb numérique, mais qui est très extrême. Profondeur en fait dans le son.
Et qu'on retrouve dans Shogun Kunitoki, il y a quand même vachement ce côté de reverb joué sur la psychoacoustique de la reverb.
Voilà, après on n'a pas que du matériel analogique, hein. On utilise, tu vois, on a un ordi aussi qui permet de balancer les boîtes à rythme. On repasse aussi par l'ordi pour utiliser certains effets, on mixe un petit peu tout ça, quoi. On n'est pas arrêté forcément sur la technologie analogique, même si on aime bien ça. Mais... Je pense que le mélange de tout ça est intéressant. J'utilise aussi le Ableton et le MIDI et l'ordinateur pour séquencer en MIDI, hein, tout simplement. C'est quand même pratique pour séquencer, je trouve.
Oui, mais on aime bien, nous deux, quand même, jouer sur des claviers analogiques. Ouais. Disons qu'on a plus envie de produire un live rock qu'un live électro, pur, quoi. Donc on a chacun notre ampli. Il y a un ampli guitare pour l'orgue de Manu. Moi, j'ai un ampli basse pour mon Moog. Et c'est un peu ça qui nous fait le son, quoi.
Et donc ton synthé, toi, alors ?
Ah, mon synthé, formidable. Mon synthé, qui est un Moog, mais que Moog avait designé pour Realistic, qui était une marque de matériel lo-fi dégueulasse, destiné au marché de la grande consommation américaine dans les années 70. Donc en fait, c'était le synthé que Moog avait designé pour les enfants pauvres américains des années 70. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un Rogue, voire un Prodigy amélioré. Et c'est assez... Enfin voilà, ça c'était pour les enfants américains quand même. Ils se sont retrouvés avec un truc comme ça. Auquel on adjoint, pour le bien du rock, une pédale de fuzz, la rate. La Holy Grail, bien sûr. Et puis après, éventuellement, un looper ou un délai pour certains leads. Mais au final, on se retrouve avec l'orgue de Manu qui a un peu la fonction de guitare. Si on était en formation rock, tu ferais la guitare avec ton orgue et je ferais la basse. Voilà. Et je ferais la basse ou les guitares rythmiques avec le Moog.
Ben ouais, on n'a pas trop changé finalement de nos habitudes rock, c'est-à-dire de jouer quand même sur des amplis.
C'est ça.
Parce que c'est pratique, on s'entend mieux déjà. On n'est pas obligé de passer par les retours souvent foireux des endroits où on joue, et au moins on est sûr d'entendre notre instrument derrière, de l'avoir au cul, et ça c'est pas mal. Donc voilà un peu nos instruments.
J'espère que tu as noté les gommettes.
Oui.
Alors, Manu, c'est quoi ça?
C'est un Do.
Bravo.
Ah, le rose, c'est le Do.
Vas-y, ça c'est quoi?
C'est pas un Do, ça. C'est avant le Do, ça. Non,
c'est pas un Do, ça.
Le Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do. Si, Do. C'est pas ça?
Pas du tout. Je suis perdu, là.
Je panique, là.
Je sais pas.
Presque, c'était presque, c'était le mi.
Ah merde.
C'est un mi.
Ok,
c'est un mi. Voilà, tu vois. Non.
Ok.
Bon.
On va jouer le petit morceau. Allez, on est parti.
On y va ?
Allez, on y va.
Allez. Thank you.
à Bardous. Les voisins. C'est cool d'avoir une cave, mais pas des voisins.
Il a tapé ses voisins, enfin tapé ton voisin ou quoi ?
Ouais, il y a le gamin qui arrive pas à s'endormir.
Ah bah voilà.
Tu m'étonnes.
C'est le rock.
Il a pas le rock ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
Bon, on va baisser un peu le général. Tout simplement, hein. C'est l'avantage de l'électro. Il n'y a pas de batterie.
On va baisser un poil. D'ailleurs, je dis que voilà, c'est deux morceaux.
D'accord. Compréhensible, c'est bien.
Allez. On y va.